Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Noëlla Louzitu Kabambi.
Des actions plus concrètes de la communauté internationale contre le Rwanda du fait de la guerre qu'elle mène en RDC en appuyant le 1-23, c'est la position de la RDC via son chef de l'État. Propos tenus ce samedi au Palais de la Nation par Félix Tshisekedi aux membres du corps diplomatique accrédité en RDC à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux. Une quarantaine de personnes tuées au cours de l'attaque de mardi dernier dans le territoire de Lubero au nord Kivu. C'est le nouveau bilan revu à la hausse de cette attaque des ADF dans le village de Mukoko, selon la société civile de Lubero. Nous irons aussi à Kalemie avec l'invité de ce journal. Il s'agit de Cyril Kimpo Awel, président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Il va parler de la présence majoritaire des suppléants au sein de cette institution. Bonsoir à tous. Le chef de l'État réitère la position du gouvernement congolais de voir la communauté internationale engranger des actions plus concrètes contre le Rwanda du fait de la guerre qu'elle mène à RDC en appuyant le 1-23. Dans une adresse lors de la cérémonie d'échange de vœux ce samedi au Palais de la Nation, en compagnie des membres du corps diplomatique accrédité en RDC, Félix Tshisekedi a insisté sur la volonté de restaurer la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs par des moyens pacifiques, ce notamment à travers le processus de Luanda. Un extrait de son adresse nous est proposé ici par Billy Ivan Lutumba.
Nous avons pris note des condamnations émises par certains de nos partenaires à l'encontre du Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de notre pays. Ces prises de position, bien qu'importantes, restent insuffisantes face à la gravité des actes commis et à leurs conséquences humanitaires désastreuses. Des sanctions concrètes et immédiates doivent être adoptées pour mettre fin à cette agression et prévenir une escalade régionale. Nous attendons de la communauté internationale bien plus qu'un discours de solidarité. La République démocratique du Congo ne demande pas de l'aide. Elle exige une solidarité juste et équitable, fondée sur le respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses droits fondamentaux. Ce soutien n'est pas une faveur. C'est une responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la sécurité internationale. La communauté internationale doit maintenant transformer ses déclarations en actions tangibles et dissuasives. Des sanctions ciblées contre le Rwanda, ses responsables militaires et politiques impliqués dans ces exactions, ainsi que leurs réseaux financiers, sont impératifs.
Toujours à Kinshasa, l'état de la voirie de cette ville-province interpelle de plus en plus au point que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'y implique en personne. Si certaines artères sont revêtues de béton depuis quelques mois, l'insalubrité et le manque d'entretien des caniveaux impactent négativement l'état de ces avenues. Et puis, plusieurs routes non réhabilitées sont dans un état d'impraticabilité sans précédent, rendant impossible toute circulation. Le constat fait hier par le président de la République et un bref aperçu de la voirie de Kinshasa, c'est dans ce reportage que nous propose Billy Ivan Lutumba.
Déjà, c'est un constat malheureux lors de cette visite après son passage par l'avenue Kassavubu dans son tronçon compris entre les avenues du Commerce et Roi Kadingi autour du nouveau marché central. Les avenues du marché, des marais et des plateaux sont non seulement méconnaissables, elles sont envahies de bout en bout par des vendeurs. Il en est de même de toutes les autres voies secondaires d'accès au centre-ville et au marché central, notamment Kassavubu, Kabambare, Itaga, Croix-Rouge, Wangata et même Sendwe. Au-delà des artères visitées par le président de la République, l'avenue de la Libération ex-24 novembre dans son tronçon entre Rond-Point Mollard et le marché Selembao est évitée par des conducteurs à cause, disons-le bien, des cratères sur cette voie. À hauteur du marché Selembao, la voie bien que bétonnée, elle est couverte des détritus et rejets des légumes et autres déchets qui ont également bouché les canalisations. Face à l'insalubrité caractéristique que présente cette voirie de Kinshasa, les solutions envisagées lors de cette visite de Tshisekedi sont entre autres les redimensionnements des caniveaux et la réorganisation du réseau d'évacuation des eaux. Toutes les constructions sur des caniveaux seront détruites. De son côté, le ministère provincial des infrastructures et travaux publics annonce les travaux d'élargissement à 4 bandes d'une partie de l'avenue des Libérations, compris entre l'arrêt Bambolé et le marché Selembao.
Revenons sur la situation sécuritaire en RDC avec la poursuite de l'itinérance dans le Congo central du vice-premier ministre en charge de la défense et ancien combattant Guy Kabombo Mwadiamvita. Hier vendredi à Matadi, il a présidé la réunion du Conseil de sécurité provinciale dans la salle de réunion du gouvernorat de province. Au cours de cette réunion élargie aux députés nationaux de la province, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a parlé de l'importance de la collaboration interinstitutionnelle pour assurer la sécurité et le développement de ce coin du pays. Nana Plurich Mambou.
Cette réunion dite de haute portée sécuritaire a tourné autour des différents maux qui minent le Congo central. C'est notamment l'insécurité avec la montée de la criminalité, les phénomènes coupeurs des routes sur la nationale numéro 1 Kinshasa-Boma, ainsi que les incursions des miliciens Mobondo dans les territoires de Kimvula. Après ces conseils de sécurité, Guy Kabombo a une fois de plus présidé une réunion stratégique avec les autorités de la 12e région militaire sur la cartographie militaire et d'autres problèmes, notamment logistiques. Avant de prendre la direction du site militaire de Tombangadio, Guy Kabombo a visité l'hôpital militaire des garnisons du camp Redjaf. Question de se rendre compte des conditions de la prise en charge des malades. Aux épouses des militaires qui l'ont accueilli de façon chaleureuse, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale leur a promis une nette amélioration des conditions socio-professionnelles de leur mari. Entamé en Banzangungu sur instruction du commandant suprême des défenses et des sécurités, l'itinérance qu'effectue Guy Kabombo, c'est pour s'enquérir de la situation sécuritaire et socio-professionnelle des hommes en uniforme du Congo central. Après Matadi, le vice-premier ministre et ministre de la Défense se rendra à la cité énergétique d'Inga ainsi qu'à Boma et Mwanda. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans le territoire de Lubero au Nord Kivu, le bilan de l'attaque attribuée aux rebelles des ADF dans le village de Mukoko est revu à la hausse. Ce samedi, des sources de la société civile parlent maintenant d'une quarantaine de personnes tuées au cours de cette attaque mardi dernier dans cette localité. Les leaders locaux condamnent par ailleurs l'embuscade que certains groupes armés Mai Mai ont tendue aux équipes de sécurité qui voulaient se rendre dans la zone pour des fouilles. Guylaine Kassassia nous fait le point.
Ce samedi matin, les coordonnateurs de la protection civile de la zone descendue de Moussienene parlent des 45 corps jusqu'à retrouvés après les trois autres, dont un couple ramassé au village de Mapanga vendredi après-midi. Une équipe des soldats des FARDC de l'armée ougandaise et UPDF envoyée dans la zone pour le fouille a été empêchée d'accéder au lieu du drame par un groupe de jeunes dits d'autodéfense retournés au niveau de Moussingiri. Esther Kavira Mouissa, femme leader locale, appelle ces jeunes à ne pas s'attaquer aux forces de sécurité dont la mission est de protéger la population contre les rebelles des ADF.
On a massacré la population, c'est des 45 personnes et jusqu'à présent, on n'a pas encore retrouvé tous les corps. Jusqu'à présent, on est dans une grande peur. Maintenant, qu'à l'armée nous tienne la main, aux défenses locaux qui sont basés là-bas, de laisser les passages libres à l'armée UPDF et les FARDC.
Pour rappel, c'est depuis mercredi 15 janvier que les rebelles des ADF ont attaqué le village de Mukoko et ses environs, poussant ainsi les habitants à fuir leur milieu pour se diriger les uns vers la ville de Butembo, les autres vers Lubero Centre et Moussienene dans les territoires de Lubero. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu. La cour d'appel de Tanganyika remet une fois de plus le parc national des Virunga dans ses droits concernant les terres de Nzulo, territoire de Masisi. Un nouvel arrêt rendu le 2 janvier dernier confirme en effet la décision du 16 mars 2023 rendue par la même cour, affirme la direction de l'ICCN dans cette province. Selon l'Institut congolais de conservation de la nature, cet arrêt lève le sursis d'exécution du jugement de mars 2023. Cependant, l'insécurité reste toujours un défi. Bernard Danyangi.
Maintenant, plus rien n'empêche le parc national de Virunga de jouir de tous ses droits sur les 1100 hectares de terre qu'il revendique depuis plus de 3 ans. Un groupe de 5 personnes se disant représentants de la communauté locale d'Nzulo. Le directeur des relations extérieures de la Fondation Virunga, qui apporte cette précision, dit que la cour d'appel de Tanganyika, dans son arrêt de 2 janvier dernier, a entériné la décision du 16 mars 2023, confirmant le statut d'inaliénabilité de cet espace du parc au nord du village Nzulo. Cela, ajoute Méthode Baguro Boumoué, annule la décision du tribunal de grande instance de Goma de 2022 qui était jusqu'aujourd'hui utilisé par les 5 protagonistes pour revendiquer ces terres. La même décision rejette aussi la requête de sursis d'exécution de l'arrêt de mars 2023 d'un autre leader communautaire de Kamuronza. Cependant, Méthode Baguro Boumoué reconnaît que l'insécurité reste un défi pour l'exécution de cet arrêt. Alors que des démarches sont en cours pour une solution, il déplore une campagne de vente de lopins de terre dans cette zone faisant partie intégrante du parc, mettant l'économie en danger. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Hausse du prix du transport en commun sur certains trajets de la ville de Kalemi, province du Tanganyika, et pour cause, le mauvais état du boulevard Lumumba au niveau de l'endroit appelé Lubungo. Cette partie de la route est délabrée à cause des eaux de pluie. Le passage des véhicules à cet endroit devient difficile. C'est un reportage de Paula Munanga.
Le prix d'une course sur une moto est passé de 1000 francs congolais à 1500, voire 2000 francs congolais. Et celui d'un tricycle qui coûtait 500 francs congolais se fixe désormais à 1000 francs congolais. Les axes concernés vont notamment de la place Kisebwe à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, ou au niveau des quatre coins et d'autres axes se trouvant sur la rive gauche de la rivière Lukuga. Un conducteur d'un tricycle et d'une moto s'exprime. Il ne se passe pas une semaine sans que les roulements se détériorent ou l'eau pénètre dans la boîte de vitesse. Cette situation provoque des dépenses chaque semaine. C'est ainsi que nous avons pris la décision de revoir les prix des transports à la hausse. Beaucoup des propriétaires des tricycles refusent que leur engin passe par cette partie de la route qui est délabrée. Il y a hausse du prix des transports en commun à cause du délabrement de la route. Si l'on réhabilite cette partie de la route, le prix du transport va baisser. Signalons que des inondations à répétition sur le boulevard Lumumba à Kalemi, au niveau de l'endroit appelé communément Lubungo, poussent le gouvernement de la province à chercher une solution durable. Ainsi, il prévoit la réhabilitation de la route de déviation au quartier Kalumbi. Kalemi, Polemunanga, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, bonne nouvelle pour les étudiants de l'université de Kindu. Le recteur de cette institution annonce l'ouverture de masters en communication et systèmes d'information en santé publique au sein de la faculté de médecine. Le professeur ordinaire Deogracias Kimenia parle du résultat acquis par son institution lors de la cérémonie inaugurale de ce programme de master en RDC. Il est dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
J'étais à Kinshasa, participer à une grande cérémonie inaugurale de lancement du programme de master en communication et système d'information en santé publique. Vous savez que nous avons une faculté de médecine, mais notre faculté de médecine ne roulait pas à plein temps. Maintenant que cette faculté est dotée d'un département de santé publique, avec espoir l'année prochaine déjà de commencer les fondements de l'école de santé, c'est une grande réussite pour nous. Et cette réussite est arrivée à la suite d'une victoire que nous avons acquise. L'Université Kindu a fait un score honorable de 83% à l'examen de l'assurance qualité dans plusieurs universités du Congo. Et c'est à cette période-là qu'elle a été ciblée par des organismes internationaux comme une université d'espoir. C'est ainsi que ces organismes ont mis l'œil sur notre université et l'a sollicité pour organiser des partenariats. Et nous sommes là. Je suis vraiment content pour le bien supérieur de l'Université de Kindu. La communication en santé publique est une donne très importante. Nous devons chasser les infodémies qui détruisent l'information sanitaire.
Et puis en Ituri, c'est l'unité de la police de la MONUSCO, constituée aussi de la police sénégalaise, qui a remis ce samedi des kits scolaires aux élèves de l'école Andy Soma dans la ville de Bounia. Il s'agit des cahiers, stylos, médicaments et des ballons pour les activités sportives des écoliers. Selon le responsable de cette unité de police sénégalaise, l'objectif est non seulement d'encourager ces élèves à poursuivre leurs études pour assurer leur avenir, mais aussi de promouvoir la cohésion sociale. Elle ajoute que cette assistance s'inscrit dans le cadre de la protection des civils. Les bénéficiaires ont salué ce geste qui, selon eux, leur apporte du réconfort et de l'espoir.
Actualité internationale.
Le ministre égyptien des Affaires étrangères, dont le pays a servi de médiateur, a annoncé ce samedi que 50 camions de carburant devraient entrer dans la bande de Gaza avec le début du cessez-le-feu demain dimanche. La trêve devrait entrer en vigueur à 6h30 temps universel, ouvrant la voie à un flux d'aide massif selon les médiateurs. Des centaines de camions sont gardés du côté égyptien du poste frontière de Rafah, un point d'entrée autrefois vital pour l'aide humanitaire, fermé depuis mai lorsque les forces israéliennes ont pris le contrôle du côté palestinien du point de passage. Les travailleurs humanitaires ont mis en garde contre les défis monumentaux qui pourraient entraver les opérations d'aide, notamment la destruction des infrastructures qui traitaient auparavant les livraisons.
L'invité.
Cyril Kimpo Awel est notre invité. Il est le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Il parle de la présence majoritaire des suppléants au sein de cette institution et il démontre comment les suppléants, qui sont des élus, représentent valablement le peuple. Cyril Kimpo s'entretient avec Paulin Monanga.
Monsieur Cyril Kimpo Awel, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Certains mouvements de la société civile ici à Kalemi s'inquiètent qu'à ce jour, des suppléants siègent en nombre important à l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Votre chambre n'a-t-elle pas dilué sa légitimité avec ces suppléants qui siègent en lieu et place des élus?
C'est une question importante pour élucider un peu le malentendu de la société civile. Il faut savoir que les suppléants, ils sont élus en même temps que les titulaires des postes. Et ça, c'est en vertu de l'article 198 de notre Constitution. Donc, les députés provinciaux sont élus avec deux suppléants. Et quand vous lisez la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, vous allez voir également que cette loi demande à ce que les députés soient présentés avec les deux suppléants le jour des élections. Donc, à ce niveau-là, il faut savoir que les suppléants, c'est aussi les députés, ils sont également élus. Vous avez posé la question de savoir si l'Assemblée n'est pas diluée. Non, pas du tout. Ce sont des responsables qui sont en train de siéger avec nous ensemble et ils sont au même pied d'égalité et ils ont juste des mêmes prérogatives que les députés parce que leur rôle, c'est voter les édits, contrôler le gouvernement provincial, les services publics provinciaux et locaux et légiférer dans les matières exclusives des provinces. Donc, ils jouent pleinement leur rôle de députés et ils représentent valablement leurs bases respectives.
Et comment l'Assemblée provinciale peut assumer son pouvoir de contrôle de l'exécutif composé en majorité des élus du peuple?
Mais il faut savoir que quand on exerce ces contrôles, ce n'est pas seulement pour punir. Le contrôle parlementaire, il a aussi un rôle pédagogique, de demander au gouvernement de s'aligner, de demander au gouvernement de faire ce que la population attend de lui. Et c'est ça le rôle de l'Assemblée. Mais nous, au niveau de l'Assemblée provinciale, nous avons aussi prévu le dialogue interinstitutionnel. Pour prévenir beaucoup de crises, vous savez que notre Assemblée a connu plusieurs crises depuis le découpage de la province. Et nous avons connu plus de 3 crises majeures où parfois l'Assemblée a été fermée. Donc, il faudrait que nous soyons redevables à la population. Mais en même temps, nous devons faire notre travail de contrôle. Mais un contrôle aussi pédagogique, un contrôle qui n'est pas seulement pour la sanction.
Mais ce contrôle peut se faire facilement puisque ceux qui étaient élus sont au gouvernement. Alors, ils sont remplacés par des suppléants. Est-ce que ces suppléants peuvent facilement faire leur travail? D'autant plus que ceux qui leur ont laissé la place sont au gouvernement. Est-ce qu'ils peuvent les contrôler facilement?
Non, mais écoutez, pour le cas du Tanganyika, il n'y a que 2 ministres provinciaux élus qui ont été nommés ministres qui sont au gouvernement aujourd'hui et qui ont laissé à leur place les suppléants. Et d'ailleurs, ils ne sont pas encore remplacés. Je crois à la session de mars, ils le seront. Nous avons beaucoup de suppléants parce que, déjà, il faut savoir que les élections passées, beaucoup de députés ont postulé à 2 niveaux, niveau national et provincial. Et le niveau national semble être juteux. Beaucoup de députés ont préféré aller au niveau national en laissant les suppléants au niveau provincial. Mais il faut savoir que ceux qui sont restés ne sont pas moindres. Ils ont aussi de la matière, ils sont aussi compétents que ceux qui sont partis au niveau national.
Mais c'est ce qui n'est pas de l'avis d'une certaine opinion qui pense que la plupart des suppléants restés ici à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, par exemple, sont des membres des familles des députés qui ont été élus et par conséquent, ils ne sont pas toujours très forts pour défendre les intérêts de la population.
Non, ici, ils sont forts parce que vous avez suivi réellement la session qui est passée. On a eu beaucoup de matières qu'on a traitées. On a voté des édits, on a voté le budget, on a fait la reddition des comptes, on a fait le contrôle parlementaire. Ils sont efficaces. Le problème aussi, c'est savoir que nous sommes au début de la législature. L'Assemblée provinciale a adopté une méthode également de formation continue des députés. Il y a beaucoup d'ateliers de renforcement des capacités qui ont été prévus. Et déjà, depuis le début de cette législature, depuis février, nous avons connu près de 6 ateliers de formation continue. Chaque député provincial, il faut le savoir, il a un assistant payé par l'Assemblée provinciale. Donc, nous avons mis un arsenal assez important pour aider les élus à jouer pleinement leur rôle.
Que préconisez-vous pour que l'Assemblée provinciale travaille réellement pour l'intérêt du peuple congolais et non pour les intérêts de certains politiciens?
Ça, c'est la prise de conscience de chacun d'entre nous. Et je pense que cette législature, les députés ont compris qu'il est plus que jamais le moment de travailler pour sa base.
Monsieur Cyril Kimpouawel, je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Paulin.
Merci à vous aussi d'avoir suivi ce journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi et mis en onde par Alain Goy. Le tout sous la supervision de Jude Mister Bilan Dankoumar. Je vous laisse en compagnie de Jean-Marc Matouaki Mofelele Dijano pour la poursuite de l'émission Métissage sur le média de la paix, Radio Okapi.